طيب، وباكم إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم en cette soirée du samedi 20 ربيع الأول 1431, ce qui correspond avec le 6 mars. Le 6 mars, naam, 2010, bi'idhnillahi ta'ala. Nous sommes toujours avec le fabuleux livre « Les fondements de la foi à la lumière du Coran et de la Sunna authentique » du grand et éminent savant Cheikh Ibn Uthaymeen, qu'Allah lui fasse sa miséricorde. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va parler des piliers de l'islam. Comme ça, brièvement, non, pour que les gens comprennent, non, l'essentiel, c'est qu'ils comprennent. On va commencer par le premier pilier de l'islam. Avant cela, je dirais, ces piliers sont les bases fondamentales sur lesquelles repose l'islam. Et leur nombre, comme vous le savez, est de 5. D'après le hadith de Abdullah ibn Omar, que le messager a dit, l'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration qu'Allah, et que Muhammad est son serviteur et son messager. Ensuite, l'accomplissement de la salat, les prières quotidiennes. Ensuite, le paiement de la zakat, l'impôt. Ensuite, le jeûne du mois de Ramadan. Et enfin, le hajj, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque. Pour celui qui en a les moyens, tant physiques que matériels. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On va commencer, inshallah ta'ala, par le premier pilier. Avant cela, je rappelle à mes chers élèves, mes frères et mes sœurs, d'aller, inshallah ta'ala, en même temps, d'être présent en même temps, inshallah ta'ala, sur le salon en Europe. Car on peut être dans 2, 3, 4, 5 salons à la fois. Je vous demande, inshallah ta'ala, d'être en même temps là-bas. Le premier pilier, c'est la shahada, c'est l'attestation, c'est le témoignage qu'il n'y a de divinité véritable qui mérite l'adoration qu'Allah Ta'ala, seul Allah Azza wa Jal, seul le Seigneur, et que Muhammad alayhi salam est son serviteur et son messager. C'est en prononçant cette attestation que je viens de dire qu'on rentre en islam. Mais c'est avant cela, avant de prononcer, c'est quoi d'abord? C'est le fait de croire fermement avec son cœur en ce témoignage. De telle sorte que la langue le prononce avec une conviction pareille à celle qu'on aurait eue si on l'avait vue de nos propres yeux. C'est pour cela que on a toujours dit que quand on veut inviter quelqu'un à embrasser l'islam, ce n'est pas seulement dit je reconnais qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Mohammed son messager. Ça suffit pas. Pourquoi? Car peut-être il va dire cette phrase ou bien ces deux phrases sans connaître leur sens. C'est un peu comme un perroquet. Tu lui dis répète cette phrase, il va la répéter. Mais le plus important, c'est qu'il comprenne qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? J'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. Et que Mohammed est son messager. Non, et son serviteur, son messager. Qu'est-ce que ça veut dire ça d'abord? Je lui explique. Qu'est-ce que ça veut dire cela? S'il a compris ça, et il reconnaît, il dit ça, je reconnais que c'est la vérité, je crois en cela, là on lui demande de passer à la deuxième action, très importante qui est quoi? Qu'il le dise. Il faut qu'il dise, « Shahadu la ilaha illallah, shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. » Et comme on l'a dit plusieurs fois, ce n'est pas obligé qu'il aille devant un imam. C'est pas la peine de le prendre à la mosquée pour qu'il dise. Il suffit qu'il dise entre lui et son âme, c'est tout. Mais qu'il prononce de façon à ce qu'il s'entende lui-même. Et que s'il y avait une personne avec lui, elle l'aurait entendu. Mais si on le prend vers l'imam à la mosquée, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas grave. Peut-être que ça sera aussi un moyen pour l'encourager. Quand il verra les gens yani, venir l'embrasser, le féliciter pour sa tauba. Car on a vu très prochainement, vous rappelez, le dernier cours, comment qu'il était de la sunna de féliciter quelqu'un quand il fait sa tauba. Alors qu'en est-il quand il rentre dans l'islam? Même si on lui fait un cadeau, c'est permis. Juste pour l'encourager, pour continuer, elle est dans cette voie. Et pourquoi maintenant? Pourquoi, si vous avez remarqué, pourquoi, malgré que la shahada est considérée comme un seul pilier, mais elle comporte deux branches. Attester qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration qu'Allah, et ensuite ajouter que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son serviteur ou son messager. Et pourtant, c'est seulement un seul pilier. Pourquoi ? Les savants disent, ou bien, parce que ces deux témoignages sont les conditions d'acceptation de toutes les œuvres. Ou bien, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est un transmetteur du message d'Allah. Donc, le fait de témoigner que Muhammad, alayhi wa sallam, lui-même, est adorateur et messager d'Allah, constitue en fait un complément de la première shahada qui est que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul digne d'être adoré. Donc remarquez une chose ici très importante. Quand quelqu'un veut rentrer en islam, il doit comprendre et ensuite attester. Il dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan c'est abdu, yani son serviteur, son messager. Quand la personne reconnaît qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah. Qu'est-ce qu'elle a fait ici? Elle a reconnu donc qu'elle doit être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Sincère. C'est-à-dire, j'adore qui? J'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je délaisse tous les autres que j'adorais. Je délaisse certains adorer la lune, d'autres adorer le soleil, d'autres adorer un arbre, d'autres adorer le shaitan, d'autres s'adorer eux-mêmes. Ils adorent leur passion, ils suivent leur passion. D'autres adorent des femmes, et comme ça. Donc maintenant, ça y est. Je ne vais adorer que Allah subhanahu wa ta'ala, le seul. Et ensuite, quand tu dis, j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager, en disant j'atteste qu'il est son messager, ça veut dire, je ne vais adorer Allah subhanahu wa ta'ala que par le biais de celui-là qui est son messager, qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on dit comme ça? Car il y a des gens qui disent on adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça leur but, adorer Allah ta'ala. Mais ils l'adorent avec quoi? Pas par le biais de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais par le biais des bid'ahs, des innovations, des hérésies, des sectes égarées, de leur passion, et comme ça. Mais toi tu as dit non, je n'adore qu'Allah, et en même temps, je ne l'adore que par le biais de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, je ne l'adore que par ce que me montre le messager, il me dit de faire. Donc c'est pour ça qu'Al-Sunnah se différencie des autres. Al-Sunnah disent, en arabe, ils disent, la na'bud illallah, wa la na'buduhu illa bimashara. Écoutez bien, je n'adore qu'Allah, mais ça suffit pas. Je peux l'adorer avec mes passions, avec des hérésies, des bid'ah. Non, je n'adore qu'Allah. Et ensuite, qu'est-ce que j'ajoute? Je ne l'adore qu'avec ce qu'il a légiféré. Ce qu'il a légiféré, où se trouve? Où se trouve-t-il? Il se trouve dans la sunna, Coran et la sunna. Regardez la différence entre celui qui adore Allah, mais l'adore avec des bid'ah, et celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'il a légiféré. C'est très important. C'est très important. Ça ne suffit pas d'adorer Allah ta'ala, mais faut-il encore l'adorer avec quoi? Avec sa législation. Pas avec ce qu'on veut nous, comme on veut nous, avec nos passions, non, avec nos bid'ahs, avec le je ne sais pas, des égarements. Et on dit j'adore Allah Ta'ala. Ça c'est très important. On trouve parmi les fruits de la shahada, quand quelqu'un fait la shahada, qu'est-ce qu'on trouve parmi les fruits? C'est la libération du cœur et de l'âme de l'asservissement des hommes. Naam. Quand quelqu'un a décidé de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne suivre que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il s'est libéré de quoi? De l'assouvissement, de la soumission et de l'asservissement à qui? Aux autres hommes ou aux autres créatures. Naam. Donc, c'est très très important. C'est pour ça que on dit toujours, et on l'a répété, chaque personne qui dit, qui prétend, elle dit je ne veux pas rentrer en islam par exemple, pourquoi? Je veux rester libre. Comme ça, les gens prétendent ça. Je ne veux pas rentrer en islam, pourquoi? Je veux rester libre. L'islam, si je commence à appliquer, telle chose est interdite, mais là, je suis libre. Non, quand je ne rentre pas en islam, mais je n'applique pas. Même certains musulmans disent, je ne veux pas appliquer pour rester libre. Qu'est-ce qu'on leur répond? On leur répond, c'est impossible. Pourquoi? On leur dit, parce que il n'y a que deux choses. Il n'y a qu'une chose à choisir des deux, il n'y a pas une troisième. Ou bien tu suis ce qu'Allah Ta'ala a descendu, ou bien tu es en train de suivre ton shaitan, ton nefs, tes passions, tes bid'ah et comme ça. Il n'y a pas autre chose. Aucune personne ne peut dire je veux rester libre sans rien suivre. On lui dit c'est impossible. Car tu es obligé de suivre quelque chose. Tu suis tes passions, tu suis ton shaitan, tu suis ton nefs, tu suis yani, ton entourage, tu suis ta société, et comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui reste comme ça sans rien suivre. Donc maintenant, puisque je suis obligé de suivre, autant suivre Allah Azza wa Jalla et son messager. Pourquoi moi je suis fou pour suivre des gens, d'autres gens, ou de suivre mes passions? Autant suivre Allah subhanahu wa ta'ala et quoi? Et son messager. Car si tu choisis de suivre tes passions, c'est-à-dire de ne pas suivre Allah Ta'ala et son messager, qu'est-ce qui va se passer? Tu es obligé, quoi, de perdre et de t'égarer dans cette vie et d'être châtié et puni dans l'au-delà. Il n'y a pas autre chose. Tandis que si tu raisonnes et tu dis, tu vas dire, je vais suivre Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Tu vas être ici, Allah Ta'ala t'a promis, d'être ici parmi les plus heureux et d'être là-bas, c'est pas la peine de vous dire où la personne va être là-bas, dans son paradis et dans les délices. C'est pour ça, il est impossible, qu'une personne s'éloigne dans cette vie de Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, et de son chemin, et puisse quoi? Et puisse être, et elle puisse être heureuse. C'est impossible. Son bonheur, s'il a des palais, s'il a de l'or, s'il a des diamants, son bonheur est relatif. Très relatif, comparé à d'autres personnes, c'est tout. Mais qu'ils ressentent ici le grand bonheur, c'est impossible. C'est un bonheur éphémère. C'est un bonheur qui s'éteint vite. C'est pour ça que les gens ici, dans cette vie, veulent profiter des passions. Profiter de l'alcool, de la drogue, pour oublier. Sinon, pourquoi des milliardaires se suicident? Si l'argent c'était le bonheur, les milliardaires ont tout. Il y a des gens qui ne peuvent même pas compter combien ils ont d'argent dans leur banque. Et ceux-là, plusieurs d'eux se sont suicidés. Donc, c'est dire quoi? C'est dire que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. D'ailleurs, on a le proverbe est très connu. L'argent ne fait pas le bonheur. Non. Et alors, pourquoi des gens vraiment pauvres se sentent vraiment heureux? Pourquoi? Donc, là-bas, c'est quoi? C'est, est-ce que tu suis le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala ou tu ne le suis pas? C'est tout. C'est ça qui va montrer est-ce qu'on est heureux ou on ne l'est pas. Donc, parmi les fruits de la shahada, c'est quoi? C'est de se libérer, et libérer son cœur et son âme de l'asservissement des hommes. Naam. Le second pilier, c'est quoi? C'est l'accomplissement des prières quotidiennes. Dès qu'une personne rentre en islam, on lui apprend une chose très importante. On lui dit, il faut que, pendant la journée, tu dois faire 5 prières. Naam. Donc c'est le fait d'adorer Allah Ta'ala, non, en pratiquant cette prière correctement et parfaitement dans ses heures et sous sa forme exigée par la loi islamique. Vous remarquerez avec moi que Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement nous a dit de prier, mais encore il nous a dit de prier à l'heure, à l'heure. C'est pour ça que celui qui ne prie pas à l'heure sans excuse, c'est quelqu'un qui joue. On ne va pas dire il prie, on dit il joue avec la salat. Il joue avec la salat. Car Allah Ta'ala ne t'a pas dit de prier seulement, mais il t'a dit de prier à l'heure. Si tu ne pries pas à l'heure, alors que tu peux prier à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de jouer, premièrement, et deuxièmement, ta prière n'est pas acceptée. Celui qui laisse la prière du jour pour la nuit, ou bien la prière de la nuit jusqu'au jour, sans excuse, celui-là, c'est pas la peine qu'il prie. Pourquoi? Parce que sa prière n'est pas acceptée. Allah subhanahu wa ta'ala, on revient à tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, nous, on adore Allah, mais on l'adore avec quoi? Avec sa législation. Maintenant, si je reconnais que Allah Ta'ala nous a ordonné de prier, donc je dois prier comme il veut lui, avec sa législation, c'est pas comme je veux moi. Et Allah Ta'ala veut que si tu veux prier, tu dois prier 5 prières. C'est pas toi qui choisis, tu vas dire je vais prier seulement 2, ou bien je vais prier 10. Il y a seulement 5 obligatoires, il n'y en a pas plus. Et ces 5 prières, tu dois les prier comme elles sont dans la législation. C'est-à-dire la prière du matin, 2. La prière du dhuhr, 4. L'asr, 4. Ensuite, maghrib, 3. Et isha, 4. C'est pas toi qui choisis comme tu veux. Et ensuite, tu dois les faire à l'heure. Allah Ta'ala veut de toi que quoi? Que pendant 5 jours, afwan, pendant 5 moments, pendant la journée, il y a 5 moments en lesquels tu dois revenir vers lui. Pour que tu montres que il est le plus grand pour toi. Il est le plus aimé, le plus adoré. Je délaisse tout à cause de lui 5 fois par jour. Non. Sinon, si tu laisses pour le soir, et tu vas tout grouper. Premièrement, tu n'as pas fait ce que Allah Ta'ala t'a dit. Deuxièmement, tu as joué avec ta salade. Troisièmement, ce n'est pas accepté, sauf si on a des excuses. Et quatrièmement, où est la sagesse? Allah Ta'ala veut que tu ne l'oublies pas. Et que toutes les 2 ou 3 heures, il y a une salate. Si jamais tu voulais t'oublier, tu te rappelles. Tu entends l'adhan, l'okba, tu dis ya salate. Donc, tu vas vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu te repens, tu fais des istighfar, tu demandes à Allah ta'ala les doigts et comme ça. Mais maintenant, c'est pas de la sagesse de délaisser Allah subhanahu wa ta'ala toute la journée, l'oublier, ensuite aller le soir et tout regrouper. Et j'ai donné une fois un exemple. Je le redis, ma'alish. C'est comme si le médecin te donnait 5 piqûres par jour. Même une le matin, une à 1h30 de l'après-midi, une vers 17h, une vers 19h, une vers peut-être 22h. Et toi, tu vas les grouper. Non, tu vas dire non, je vais laisser les 5 piqûres, je vais les mettre les 5 à la fois. Est-ce que ça va te porter du bien ou au contraire? Ça va te faire très mal et tu vas tomber malade sûrement si tu vas pas mourir. Regarde, la piqûre qui est un médicament, qui est un bien, va se renverser contre toi. Va se renverser contre toi et te faire mal et t'emmener à l'hôpital. Maintenant, la même chose, la salade qui est un bien, maintenant elle va te renverser contre toi et elle va te faire un mal dans l'au-delà quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, parmi les fruits de la salade, on constate quoi? Un apaisement de l'âme. Naam, quand la personne va vers Allah subhanahu wa ta'ala pour faire la salate, elle a quoi? Elle a un apaisement de l'âme. Ensuite, un contentement et une joie totale. Une joie, mashallah, de faire la salate. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, wa ju'ilat, qurratu ayni fi salat. Il a dit, c'est-à-dire la chose la meilleure qui puisse exister au monde, naam, que puisse, ou là dans une personne puisse rêver, ou la espérer, ou la souhaiter, il a dit c'est quoi? C'est la salat pour moi. Pour lui, alayhi salatu wassalam, c'est la salat. Subhanallah. Tellement il sait ce que c'est la salat. Tellement il connaît l'importance de la salat. Tellement, quand il dit Allahu Akbar, sallallahu alayhi wa sallam, ça y est. Il est là, debout, avec son corps, parmi ses compagnons, ou là dans sa maison, mais son âme est loin, 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 oh, chez Allah subhanahu wa ta'ala, ou peut-être dans le paradis. Naam. Donc, une joie totale, ainsi, il y a aussi parmi les fruits de la salat, un éloignement des turpitudes et des actes répréhensibles. Allah Ta'ala n'a-t-il pas dit dans la salat, dans le Coran, je n'ai pas préparé le verset, n'a-t-il pas dit « Inna salata tenha anil fahsha'i ul munkar » N'a-t-il pas dit que la salat éloignait des turpitudes et des actes répréhensibles? Il l'a bien dit dans le Coran, il a dit « Inna salata la salat tenha » éloigne anil fahsha'i des turpitudes et des actes répréhensibles ul munkar. C'est pour cela que toute personne qui va faire la salat vraiment comme il se doit qu'on la fasse, cette personne sera toujours bi'idhnillah ta'ala loin des grands péchés et des turpitudes et des actes répréhensibles. C'est pour ça aussi on va dire le contraire, que toute personne qui en même temps fait la prière, elle prie 5 fois par jour et en même temps fait les grands péchés, cela veut dire quoi tout simplement? Cela veut dire qu'elle ne fait pas la prière, la vraie. Elle fait une fausse prière. Car la vraie, Allah Ta'ala dit dans le Coran qu'elle éloigne des grands péchés. Comment se fait-il que celui-là, il fait la prière et en même temps, il fume la drogue? Il se drogue. Comment se fait-il que celui-là, il fait la prière et en même temps, il boit de l'alcool? Celui-là, il fait la prière et il vole. Celui-là, il fait la prière et je ne sais pas ce qu'il fait avec des femmes. Comment se fait-il? Alors que Allah Ta'ala a dit que la prière éloignée des grands péchés. Donc ça veut dire qu'il est en train de faire une fausse prière. S'il avait fait la vraie aurait fait sa fonction. Sa fonction c'est d'éloigner. Regardez donc parmi les fruits de la prière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'éloigne. Masha'Allah, elle t'éloigne des turpitudes et des grands péchés. Alhamdoulilah pour cette ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Le troisième pilier c'est quoi? C'est le paiement de la zakat, l'impôt religieux. C'est le fait d'adorer Allah Ta'ala, c'est une adoration. C'est le fait d'adorer Allah par le paiement d'une part bien précise, prélevée sur les biens islamiquement imposables. Ce n'est pas ici le moment d'expliquer cela, bien sûr. C'est juste pour dire que c'est un pilier. C'est-à-dire, une fois par an, le musulman, s'il a atteint une certaine somme dans son argent, il doit donner un petit impôt qui n'est rien, bien sûr, 2,5%. 2,5%, ce n'est rien non, comparé à ce qui lui reste comme argent. Il doit le donner non, à une certaine catégorie de gens. Et parmi ces fruits, le musulman purifie son esprit et son âme du mauvais caractère qu'est l'avarice. Non. Maintenant, c'est obligé que tu donnes. Même si tu n'as pas l'obligé de donner, tu n'as pas l'habitude de donner bénévolement. Tu es avare. Maintenant, tu es obligé que tu donnes une fois par an si tu as atteint une certaine somme. Donc, quoi? Tu vas yani, obliger ton âme et ton esprit à combattre l'avarice. Et en même temps, parmi ces fruits, tu participes ainsi aux besoins financiers de l'islam et des musulmans. Le quatrième pilier, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Le quatrième pilier, c'est une fois par an seulement, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en cessant de manger, en cessant de boire et en cessant d'avoir des relations sexuelles pendant les journées du mois de Ramadan avec son épouse. Et parmi ces fruits aussi, c'est quoi? C'est que le musulman éduque son corps à renoncer aux choses qu'il aime dans l'espoir de mériter la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla veut t'apprendre pendant ce mois à délaisser des choses quoi? Licites, comme le manger, le boire et sa femme. Ce sont des choses licites. Tu les délaisses pour Allah subhanahu wa ta'ala pour t'habituer alors à délaisser ce qui est illicite. Car si quelque chose de licite, tu dois quoi? T'en éloigner. Alors qu'en est-il de l'illicite? Et encore, ça a aussi un autre fruit. C'est quoi? C'est le fait de compatir avec qui? Avec les pauvres. Et de ressentir leur souffrance. Les pauvres qui ne mangent pas. Il y a beaucoup de pauvres qui ne mangent pas. Nous, on ne les connaît pas. Ils sont en Afrique, il y a des milliers, si ce n'est pas des millions, qui n'arrivent même pas à et se remplir le ventre une fois par jour. Cela, toi, quand tu jeûnes, tu vas aussi yani, compatir avec eux. Tu as fait comme eux. Vous êtes tous égaux ce jour-là, pendant ce mois-là, pendant la journée. Enfin, le cinquième pilier, c'est le pèlerinage à la Mecque. Le Hajj. C'est le fait d'adorer Allah en se dirigeant vers la Kaaba, la maison sacrée de la Mecque, dans l'intention de pratiquer les rites du Hajj. C'est obligé pour chaque musulman, bien sûr, qui est pubère, qui raisonne, qui n'est pas fou, qui n'est pas malade, qui a les moyens, c'est obligé pour lui, qu'il soit un homme ou une femme. Parmi ses fruits, le musulman éduque son esprit à dépenser financièrement et physiquement dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le hajj est considéré comme une forme de djihad, surtout pour les femmes. Les femmes n'ont pas de djihad. Elles ont quoi? Elles ont la umra et le hajj. Mais c'est dommage que beaucoup de femmes ne pensent pas au hajj. Beaucoup de femmes. Et même beaucoup d'hommes laissent passer l'occasion du hajj et disent, laisse inshallah ta'ala quand je vais grandir. L'autre dit, quand je vais vieillir. L'autre dit, quand je vais me marier. Quand je vais me marier, je vais au hajj inshallah. Alors que maintenant, il a l'occasion d'aller. Il a l'occasion, il dit non. Laisse quand je vais me marier. Et bien sûr, ça, c'est faux. Qui est-ce qui te prouve que tu vas vivre encore et que tu vas te marier et ensuite aller au hajj? Qui t'a dit? Où as-tu lu cela? Peut-être tu as lu l'horoscope. C'est l'horoscope qui t'a dit que tu allais vivre, peut-être. Mais, à chaque fois que l'occasion se présente, le musulman doit sauter sur l'occasion. Il doit dire, je ne sais pas si je vais vivre d'ici demain ou pas. J'ai l'occasion d'aller au hajj, je saute sur cette occasion. D'ailleurs, même le prophète a dit qu'il fallait faire comme ça. Il a dit, peut-être que vous aurez ensuite des entraves, des embûches et vous ne pouvez pas y aller. Donc, dès que j'ai l'occasion du hajj, je saute sur cette occasion pour faire le cinquième pilier bi'idna azzawajal. En somme, les fruits mentionnés ou ignorés de ces cinq piliers font de la nation islamique une nation pure et saine qui suit la religion d'Allah azzawajal, la religion de vérité. Et cette nation traite l'humanité avec justice, véracité et bon comportement. C'est pourquoi le restant des lois islamiques ne peut donner ses fruits et être bénéfique à la nation qu'après l'établissement des cinq piliers de l'islam. De plus, la situation de la nation ne sera corrigée qu'avec la bonne pratique de sa religion. Et quiconque en veut la preuve, qu'il lise la parole d'Allah Azzawajal lorsqu'il a dit Sourate Al-A'raf, verset 96-99. Qu'a-t-il dit? Écoutez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a dit. Il a dit, et si les habitants des cités et des villes, aussi bien sûr, avaient cru et avaient été pieux, alors nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis, yani châtiés, pour ce qu'ils avaient acquis. Vous lisez le verset. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, alors nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons saisis. Saisis ici, c'est-à-dire châtiés, parce qu'ils avaient acquis. Quand Allah Ta'ala a dit, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel, par exemple la pluie et de la terre, ce que Allah Ta'ala fait sortir de la terre, comme plantes, comme arbres, comme légumes, comme tout ça, c'est quoi? S'ils avaient cru et avaient été pieux. La croyance, et j'ajoute quoi? J'ajoute la piété. Car je peux être croyant, je peux être musulman, mais en même temps je suis pervers. Je suis musulman, je bois de l'alcool. Je suis musulman, je fais de la fornication. Je suis musulman, je mens, je vole. Tout ça, ça ne fait pas sortir de l'islam. Mais ça ne donne pas la bénédiction du ciel et de la terre. Ça ne donne pas le khayrat, ça ne donne pas na'am. La pluie, ça donne pas. Pour que ça donne, il faut quoi? Il faut la croyance et on ajoute quoi? La piété. S'ils avaient cru et avaient été pieux. Le rôle de la piété. Ensuite, là, Ta'ala a dit, les gens des cités, toujours le même verset un peu plus loin, les gens des cités sont-ils sûrs, Naam, sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour pendant qu'ils s'amusent? Ensuite, il a dit, sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Naam, Muslim, tu as sauté un verset. Je répète, Naam, tu as sauté deux ou trois. Je répète, Allah Ta'ala a dit, les gens des cités, sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne va pas les atteindre le jour pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus, ou bien perdants aussi, se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Naam. Les gens des cités, sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne va pas les atteindre la nuit pendant qu'ils sont endormis? Et les gens des cités, sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne va pas les atteindre le jour pendant qu'ils s'amusent? Ensuite, il a dit, sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Ensuite, il a dit, seuls les gens perdus sont à l'abri du stratagème d'Allah. Remarquez avec moi quelque chose de très important dans le verset 97. Il a dit, les gens des cités, sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit? Il a dit, pendant qu'ils sont endormis. Et regardez, et écoutez, et lisez les journaux, combien de fois le châtiment d'Allah Ta'ala vient aux gens des cités pendant qu'ils sont en train de dormir. Tout dernièrement là, presque tout ce qui arrive, si vous avez remarqué, c'est surtout la nuit, pendant que les gens sont en train de dormir. Et c'est quoi? C'est le grand tremblement de terre, 7 ou le 8 sur l'échelle Richter, et là, la personne s'est endormie, on la rencontre plus. De son sommeil, vers la mort, vers le grand sommeil. Et ensuite, quand Allah Ta'ala a parlé de ce que font les gens le matin, qu'est-ce qu'il a dit? Ou bien les gens des cités, sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne va pas les atteindre pendant le jour? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pendant le jour? Pendant qu'ils s'amusent. Beaucoup de gens s'amusent pendant le jour. S'amusent au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont quoi? Ils sont en train de s'amuser. Non, beaucoup de gens s'amusent pendant le jour. Et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive alors qu'ils sont en train de s'amuser. Ensuite, il a dit, sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les perdants et les perdus, ce sont eux qui sentent qu'ils sont à l'abri du stratagème d'Allah. Ça, c'est, il faudrait que vous le sachiez bien, toute personne qui se sent à l'abri du châtiment d'Allah et de ses stratagèmes, celle-là, c'est quoi? C'est un perdant. Et dans un autre verset, il a dit, c'est un pervers aussi. Car toute personne pieuse craint les stratagèmes d'Allah, craint son châtiment. Toute personne pieuse craint d'une minute à l'autre qu'il t'arrive quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala et que je ne sais pas ce qui t'arrive. Que tu meurs, qu'il t'arrive un grand malheur, que c'est très grave. Et toute personne qui est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est perverse et qui est noyée dans les passions, se sent quoi? Se sent à l'abri du stratagème. Et dit, Alhamdoulilah, moi, qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai ni brûlé des mosquées, ni j'ai uriné sur le Coran. Je n'ai rien fait, ni j'ai tué quelqu'un, Alhamdoulilah. Alors que cette personne qui dit comme ça, bien sûr, ne fait ni la prière, ni ne jeûne, si c'est une femme, ni elle n'est voilée, ni. Il dit comme ça, c'est Shaitan qui lui dit comme ça. Alors que le plus tu as peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus lorsque tu fais tout ce que Allah ta'ala t'a ordonné, et tu as peur. Tu dis, à chaque instant, j'ai peur de mourir, et j'ai peur d'aller en enfer, et j'ai peur qu'il m'arrive des choses. Pourquoi? Parce que je sais que je n'ai pas adoré Allah ta'ala comme il fallait. Et beaucoup de choses, je ne les ai pas faites. Beaucoup de choses, Allah ta'ala m'a demandé de les faire, je ne les ai pas faites comme il fallait que je les fasse. Naam. C'est pour ça que je vous rappelle ici le hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas ici son numéro avec moi, mais vous devez sûrement le connaître, il est authentique. Il se trouve dans les livres de Cheikh Al-Albani aussi, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah Ta'ala a dit, c'est-à-dire le messager a dit que Allah Ta'ala a dit que Allah Ta'ala dit, je ne groupe jamais à mon serviteur entre quoi? Entre deux peurs et deux, c'est-à-dire le contraire de la peur, disons deux abris. Non, être à l'abri de la peur. En sécurité, voilà, je trouvais le mot. Allah Ta'ala dit, je ne groupe jamais à mon serviteur entre deux peurs et deux sécurités. Et deux sécurités. Il a dit, s'il a peur de moi dans cette vie, il sera en sécurité dans l'au-delà. S'il n'a pas eu peur de moi dans cette vie, c'est-à-dire l'insécurité dans cette vie, alors il aura la peur le jour de ma rencontre. Allahu Akbar, c'est très important. Deux choses qui ne peuvent pas se grouper sur une seule personne. Ou bien, ici, tu as peur du Seigneur, tu l'as adoré, tu as fait ton possible pour faire ce qu'il t'a demandé, alors sache que demain quand tu vas mourir, c'est la grande sécurité qui t'attend dans les grands paradis. Et ou bien, tu n'as pas eu peur ici, et tu as dit, moi je m'en fous, moi je suis comme tout le monde. Ah non, qu'est-ce que c'est ce tout le monde fait comme ça, tout le monde fait des péchés, tout le monde. Non. Et tu t'es senti vraiment dans la sécurité, alors sache que la grande peur t'attend demain quand tu vas mourir. Non. Donc, alhamdoulillah pour les personnes qui ont eu peur dans cette vie. Alhamdoulillah pour toute personne qui a craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui a pleuré, qui a eu peur et qui s'est senti dans cette vie dans l'insécurité. Pourquoi? Car c'est la grande sécurité qui l'attend demain quand elle va mourir. Quant à la personne qui a passé sa vie à jouer, à s'amuser, à rire, naam, à avoir le fou rire, toute sa vie comme ça, naam, alors qu'elle sache que c'est la grande peur qui l'attend demain quand elle va mourir. Naam. Tayyib. Ensuite le cheikh dit, et qu'il étudie l'histoire de ceux qui nous ont précédés, car il y a dans l'histoire des événements qui servent d'avertissement pour les gens de science et d'esprit dont les cœurs ne sont pas voilés. Il a dit qu'Allah Ta'ala nous préserve. Tayyib. On va parler un peu maintenant des bases de la croyance islamique. L'islam, comme il a été mentionné auparavant, comprend d'une part une croyance qui s'appelle le dogme, c'est-à-dire la aqida, et d'autre part contient quoi? Des lois, la législation. Qu'est-ce qu'il y a en islam? Il y a d'un côté l'aqida, et de l'autre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des lois, ce qu'on appelle la législation, la jurisprudence. Non. C'est pas comme disent les takfiris, il y a le djihad. Pour eux, c'est le djihad et quoi? Et le fait de juger avec les lois d'Allah. C'est ça l'islam chez eux. Il n'y a pas d'aqida. Hein, vous voyez un salon, peut-être il était tout à l'heure. Il dit djihad puis sharia. On fait le djihad, ensuite on fait sharia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aqida, vous comprenez? Djihad puis quoi? Puis sharia. Ce n'est pas aqida puis djihad. Ou alors djihad ensuite aqida. Non. C'est seulement djihad et sharia. L'aqida n'existe pas. Alors qu'en islam, pourquoi il y a le djihad? Pourquoi? Pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Man qatala li takuna kalimatullah hiya al-ulya. Hada fi sabilillah. Sah? Allah Ta'ala dit wa qatiluhum. Combattez-les. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de fitna. Le fitna, c'est le shirk. Donc je combats le djihad. Pourquoi? C'est pas pour tuer les gens. C'est pour qu'il n'y ait pas l'associationnisme. Pour qu'il y ait l'unicité, le monothéisme. C'est pour ça que je fais le djihad. Je ne fais pas le djihad pour parce que je suis sanguinaire, comme les takfiris. Non, je fais le djihad pour la aqida, pour qu'il y ait la aqida. C'est le muhim. Il a dit ici, nous avons évoqué certaines de ces lois et ce que l'on considère comme étant leur base fondamentale, c'est-à-dire les cinq piliers. Quant à la croyance islamique, elle repose sur la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, le jour du jugement dernier et le destin bon ou mauvais. Donc le sunna, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'attestent explicitement. Allah Ta'ala dit dans le Coran, surat 2, verset 177, il a dit, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Je répète, la bonté pieuse ne consiste pas seulement à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse consiste quoi ? Consiste de croire en Allah Ta'ala au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et il a dit aussi, Allah Azza wa Jal a dit aussi à propos du destin, dans la sourate 54, verset 49-50, il a dit, nous avons créé toutes choses avec prédestination. Et notre ordre est une seule parole. Il est prompt comme un clin d'œil. Naam. Dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril, qu'ils appellent eux Gabriel, questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la foi. C'est quoi la foi ? Le messager alayhi wa sallam a répondu, qu'est-ce qu'il a répondu ? La foi, c'est de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour du jugement dernier, et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais, rapporté par Muslim. Donc on va commencer, inshallah ta'ala, par quoi ? On va commencer par la foi en Allah ta'ala. Car il y a cinq choses, vous avez remarqué. La foi consiste à quoi ? En croire en Allah, ensuite ses anges, ses livres, ses messagers, et le jour du jugement dernier, ensuite le destin. Six choses. On va commencer par croire en Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut. Qu'est-ce que ça veut dire croire en Allah subhanahu wa ta'ala ? La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, comprend quatre points. Quatre points. Croire d'abord en son existence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, croire en sa seigneurie. Le troisième point, croire en sa divinité. Et le quatrième point, croire en ses noms et en ses attributs. Si une des quatre ou un des quatre points manque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier point, croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut. Qu'est-ce que ça veut dire cela ? Ça veut dire, attendez, on va voir si on va voir. Non. Ça veut dire, premièrement, il faut que vous sachiez que l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala est prouvée par le sens inné, de même qu'elle est prouvée par la raison, et de même qu'elle est prouvée par les textes religieux et les sens aussi. Premièrement, les preuves de l'existence du Seigneur Azza wa Jal par le sens inné. Le sens inné, c'est-à-dire la prédisposition naturelle qu'a chaque personne en son cœur. Quelle est la preuve ? Cheikh dit, rahimahullah, nous savons que toute créature ressent la foi en son créateur sans même y avoir réfléchi ou avoir reçu un enseignement au préalable. Et seule une personne dont le cœur a été détourné de la voie correcte sera éloignée de ce sens inné. En effet, le prophète alayhi sallam a dit, dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit, tout nouveau-né, écoutez bien ce hadith, tout nouveau-né, qu'est-ce qu'il a ? Il naît avec une prédisposition naturelle, c'est-à-dire l'islam. Puis, ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un mage. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un devienne chrétien, ou bien devienne juif, ou bien devienne un mage, ça, c'est d'abord les parents qui ont quoi ? Qui ont cette responsabilité. Ce sont eux qui l'ont détourné. Cela veut dire que ce bébé qui vient d'être enfanté, si on l'avait laissé comme ça naturellement, il serait de lui-même devenu musulman. Mais ce sont qui ? Ce sont ses parents qui vont quoi ? Qui vont le détourner du droit chemin et vont faire de lui un juif en lui apprenant le judaïsme ou bien un chrétien en lui apprenant le christianisme ou bien le mage ou en lui apprenant la religion des Mazdéens. Non. Sinon, tout nouveau-né naît avec quoi ? Avec une prédisposition dans son cœur naturel que le Créateur lui a donné pour que quoi ? Pour qu'il aille vers l'islam. B. L'épreuve de l'existence du Très-Haut, Azzawajal, par la raison. Par la raison. C'est-à-dire, si on va raisonner seulement, on va voir que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur existe. Certes, toutes les créatures présentes ou à venir sont l'œuvre d'une créature. Car aucune créature ne peut se créer elle-même ni être le fruit du hasard. En effet, toute créature ne peut se créer par soi-même. Car avant d'exister, elle n'était que pur néant. Et comment une chose inexistante pourrait-elle être créateur? Comment? Une chose qui n'existe pas, elle pourrait devenir créateur? De plus, elle ne peut être non plus le résultat du hasard. Car tout événement nécessite un animateur. D'autant plus que l'existence structurée, bien organisée, bien ordonnée, et le lien harmonieux entre les causes et les conséquences de cet univers refute catégoriquement l'hypothèse du hasard. Non. Effectivement, les choses soi-disant dues au hasard ne sont pas ordonnées. Alors comment peuvent-elles aboutir à un état ordonné sans l'influence d'une volonté, d'une science et d'une capacité? Non. Comment se fait-il que tout ce qu'il y a dans cet univers, toute cette harmonie qu'il y a dans l'univers, toutes ces couleurs qu'il y a dans cet univers, toutes ces formes, subhanallah, tout cela, yani, vient de lui-même, vient du hasard. C'est impossible. C'est impossible. Vraiment, si quelqu'un va dire comme ça, c'est que vraiment il déraisonne. Vraiment, il déraisonne. Il dit ici, étant donné que ces créatures ne peuvent être créateurs d'elles-mêmes, et encore moins le fruit du hasard, il ne reste plus qu'à confirmer l'existence d'un créateur qui n'est autre qu'Allah, le Seigneur des mondes. Allah a d'ailleurs mentionné cette preuve logique et irréfutable dans le Coran. Il a dit, sourate 52, verset 35, qu'est-ce qu'il a dit? Ont-ils été créés à partir de rien? Où sont-ils, eux, les créateurs? Verset très important. 52, 35. Je répète. Ont-ils été créés à partir de rien? Ou bien sont-ils, eux, les créateurs? Ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils, eux, les créateurs? C'est-à-dire que il n'y a que ces deux choses-là. C'est pas possible. Ou bien ils ont été créés de rien? Ça, c'est pas possible. Ou bien, ce sont eux qui ont créé. Donc, il faut un créateur. Non. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent ni être créés sans créateur, et ni être les créateurs d'eux-mêmes. Par conséquent, il ne reste plus qu'une seule solution. C'est quoi? Allah, le Très-Haut, c'est lui le créateur. D'ailleurs, Jubayr ibn Mut'im, écoutez bien ce qui va suivre. Jubayr ibn Mut'im, un compagnon, un grand compagnon, radiallahu ta'ala anhu, alors qu'il était mécréant, c'est-à-dire avant d'embrasser l'islam, il avait entendu le prophète, alayhi sallam, réciter ces versets de la sourate At-Tur, sourate 52, verset 35-37. Donc ce compagnon a entendu Jubayr ibn Mut'im réciter. Que réciter? Ce compagnon, Jubayr ibn Mut'im, a entendu le prophète Aïssalam réciter les versets suivants. Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur, ou sont-ils eux les maîtres souverains? Plus tard, lorsqu'il embrassa l'islam, ce grand compagnon fit part de ses impressions en disant, à cet instant, c'est-à-dire où j'ai entendu le prophète réciter ces versets, alors j'étais kafir, il a dit, mon cœur faillit s'envoler. Et c'est la première fois que la foi s'installa dans mon cœur, rapporté par Al-Bukhari. Regardez, un kafir, lorsqu'il a entendu ces versets, il a dit quoi? Autant du coffre, il était kafir, hein? Il a dit, mon cœur a failli s'envoler et sortir de mon corps. Bien sûr, moi quand je vous ai lu les versets, je les ai lus en français. Et bien sûr en français, ça ne s'appelle pas le Coran. Le Coran, il est en arabe. Ça s'appelle quoi? Une interprétation. Hein? Une interprétation du Coran. C'est pour ça que ça ne donne pas l'effet escompté. Hein, tu peux entendre le Coran en français du matin au soir, peut-être il va rien faire bouger en toi. Mais l'entendre en arabe, surtout pour ceux qui connaissent l'arabe, même si on est kafir, hein, on va ressentir des choses extraordinaires en notre fort intérieur, même si on va cacher. On va faire semblant de ne rien ressentir, mais on est obligé de ressentir. Mieux que cela, j'ajoute même des choses. Même si on ne comprend pas l'arabe, même si quelqu'un va réciter le Coran, le plasmodier, à un kafir qui ne connaît rien de l'arabe, et ne comprend pas ce que tu vas te dire, mais si tu as déjà une belle voix, et tu le récites comme il est descendu, avec yani l'ahkam, yani ce kafir va sentir quelque chose. Et il va dire, je sens quelque chose que ce que cette personne est en train de réciter, ce n'est pas quelque chose de normal. C'est pas quelque chose d'humain. C'est quelque chose de surnaturel. Naam, il va être, quoi? Il va sentir quelque chose dans son cœur. Et ça s'est passé, naam. Quelqu'un nous a raconté que un kafir avait entendu juste une récitation du récitateur koweïtien, comment il s'appelle, une seconde, l'Ahfasi, Mshari l'Ahfasi, naam, aux États-Unis, une femme je crois. Juste une récitation, elle comprend rien en arabe. Elle a dit, c'est quoi ça, yani, je sens de la chair de poule. Naam, je sens de la chair de poule sur moi. C'est quoi ça? C'est quoi cette... Qu'est en train de dire cette personne? C'est quoi? On lui a dit, ça c'est le Coran. C'est le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala. On lui a expliqué, je crois que même cette personne est rentrée en islam. Naam. Donc, Cheikh Rahimahullah dit ensuite, une chose très importante aussi. Une chose très importante. Afoun, une seconde. Non, Afoun, j'ai pas dit un instant, Afoun, non, un musulman. Je viens de remarquer maintenant que je n'avais pas le son. Est-ce que tu peux me dire depuis combien j'ai été coupé? Ça fait combien de temps que j'ai été coupé? Muslim, ça fait combien? Voilà, j'ai pas remarqué. Hein? Je l'ai dit sans le vouloir. 2 à 3 minutes, subhanallah l'adhim, c'est beaucoup. C'est beaucoup 2 à 3 minutes. Naam, c'est beaucoup, Allah. J'ai parlé beaucoup dans le vide. Mais, alhamdoulilah, je pense qu'il y a des djinns qui sont avec moi ici dans la chambre en train d'écouter. Non. Je souhaite. Taïb, vous m'avez entendu quand je parlais du palais, le palais somptueux, etc. Et enfin, la personne va dire que ce palais s'est construit de lui-même. Vous avez entendu ça ou là, vous n'avez pas entendu? Subhanallah al-Azim. C'est drôle, hein? Hajib. Donc je répète, Cheikh Rahimahullah a dit, ô lecteur, sois attentif à l'exemple suivant. Il va t'éclaircir tout ce que nous avons démontré précédemment. Si un homme te parle d'un palais bien construit, entouré de jardins et de ruisseaux, et dont l'intérieur est couvert de tapisseries, de lits, et décoré d'une multitude d'ornements luxueux. Ensuite, cet homme t'annonce que ce palais s'est construit lui-même. C'est-à-dire, il va te dire, on s'est réveillé le matin. Salam alaykoum wa rahmatullah. Fais ça. Taïb. Le Cheikh Rahimahullah disait que, si jamais une personne te parlait d'un palais, te le décrivait comme étant un très beau palais, yani, somptueux, qui contient tout, doté de tout, non, des tapis, des rideaux, des. Ensuite, il va te dire que ce palais s'est construit de lui-même. C'est-à-dire, un matin, on s'est réveillé, qu'on a trouvé ce palais construit de lui-même. Est-ce que tu vas le croire? Sûrement que tu vas dire que cette personne, c'est une menteuse, ou bien que cette personne, c'est une malade. Il faut la soigner, c'est tout. Ça, pourquoi? Parce qu'un palais, et un palais pareil, ne peut pas se construire de lui-même. Il faut qu'il y ait vraiment des architectes, et vraiment beaucoup, beaucoup de gens, et des maçons, etc., qui y en aient, ont construit ce palais. Maintenant, il veut dire, qu'en est-il alors pour ce monde, cet univers, avec ses planètes, ses soleils, ses lunes, ses montagnes, ses mers, ses pluies, ses créatures, ses oiseaux, et ensuite, yani on va dire que il s'est créé lui-même. Non, ou bien c'est le fruit d'un hasard. Il a dit, tout cela n'est pas possible. Tout cela n'est pas possible. Justement, cette harmonie qu'il y a dans cet univers prouve que c'est la création d'un créateur. Muslim, vous m'entendez? Je dis, cette harmonie qu'il y a, c'est quoi? C'est yani, la preuve qu'il y a un créateur. J'ai dit plusieurs fois, si seulement, on voyait, yani, juste on prenait une seule variété, par exemple, d'oiseaux. Si on prenait seulement, par exemple, les perroquets, tu vas voir qu'il y a yani, des couleurs qui ne finissent pas. Il y a des sortes qui ne finissent pas, dans les perroquets seulement. Non. Qu'en est-il si on allait voir tous les oiseaux, avec leurs plumes, avec leurs couleurs, avec leurs becs, avec... Tu vas t'étonner. Allons maintenant vers les fleurs. Combien de fleurs qu'il y a, combien de variétés, combien de couleurs, combien de sortes. Allons vers les poissons, allons vers. C'est impossible que toutes ces choses soient venues d'elles-mêmes. C'est impossible que toutes ces choses soient venues d'elles-mêmes. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait créé tout ça. Si je te dis, il y a un palais, un beau palais, qui s'est construit tout seul, tu vas dire non. Il faut qu'il y ait des maçons et des architectes qui ont construit ce palais. Comment, yani, tu n'acceptes pas qu'un palais soit construit de lui-même et tu acceptes que tout cet univers, ce bel univers, avec tout ce qu'il contient de beauté extraordinaire dans les créatures, hein, tu dis qu'il a été créé de lui-même. Ça, c'est vraiment de la contradiction. Naam. On va arrêter, inshallah ta'ala, aujourd'hui ici. Le temps, inshallah ta'ala, d'aller manger et de revenir. Vous mettez, inshallah ta'ala, le Coran si vous voulez autre chose. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, akhir ghuraba, tu es déconnecté quand tu as trop de PV. Mais quand tu as trop de PV, comme tu m'as dit en PV, tu es déconnecté. C'est pour ça que moi, je me mets en do not disturb. Sinon, je vais avoir trop de PV, je vais me déconnecter également. Donc, Inch'Allah, mets-toi en do not disturb. Comme ça, ça ne se déconnectera pas, Inch'Allah. Donc, je vais lire les questions. Bismillah. Donc, question de Ikhlas, Inch'Allah. Salamu alaykum, Cheikh. J'ai écouté un dars qui disait que Rabbi subhanahu wa ta'ala a deux yeux. Entre parenthèses, pas du tout comme nous, les humains. A'udhu billah. Mais dans le dars, c'était dit qu'il y a deux yeux et pas un seul. Car il y a une parole qui dit « Votre Seigneur n'est pas borgne ». Et les savants en ont conclu qu'il avait deux yeux à cause de cette parole. Mais pourquoi deux et pas trois ou quatre ou autre. Barakallahu fikum. Question de Muhammad. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. J'aimerais savoir si les 10 pauvres qu'il faut nourrir pour expier un serment doivent être des musulmans ou bien cela peut être des mécréants. Et peut-on les nourrir un par un sur plusieurs semaines? Si oui, y a-t-il une limite dans le temps? Qu'Allah vous récompense et vous élève en degré. Question de Junayna. Assalamu alaikum. Hayakumullah. Doit-on ressortir le montant d'une zakat volée à mon domicile que je devais remettre à un nécessiteux? Jazakumullah khayran shir pour ce partage de savoir. Tfadal akhir ghuraba.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يديسون إن شاء الله. الحمد لله. Donc la première question sur InSpeak, c'est donc Al-Islam Salafi. Salam alaikum, Cheikh. Ma question est en relation avec l'alliance et le désaveu, le wala wal bara. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les différentes catégories d'amour? Dans l'amour naturel, quelles sont ses limites? Par exemple, aimer un kafir par amitié, ou bien un bien d'ici-bas rentre. Est-ce que un bien ou pour un bien d'ici-bas rentre-t-il dans un petit coffre? Coffre asr. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Ensuite, donc la deuxième. La question de Ourt 19, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mercredi dernier, je vous ai posé une question concernant une femme incontinente qui avait la peau sèche et de l'eczéma. Je vous ai demandé si elle pouvait faire le rousl à foule. Vous m'avez répondu et de temps en temps. Du coup, je ne l'ai pas très bien compris. Doit-elle faire le tayammum en permanence ou provisoirement? Est-ce que la question est terminée? Quand est-ce qu'elle s'arrête de faire le rousl? Mettez un quand c'est terminé, inshallah. Barakallahu fikoum. Voilà. Est-ce que la... D'accord. Alhamdulillah. Donc quand est-ce qu'elle s'arrête de faire le rousl? Doit-elle faire le rousl quand ça va mieux? Pouvez-vous me donner plus de détails? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tfadal cheikh.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je n'ai pas bien entendu la question de l'aveu et du désaveu. Ensuite, celle qui parle de l'eczéma. Je ne sais pas si auparavant, au début, tu as dit ensuite tu as dit rousl. Les questions doivent être prêtes, c'est-à-dire on n'attend pas que la personne écrive, on va dire est-ce qu'elle a terminé, est-ce qu'elle n'a pas terminé. Si la question n'est pas prête, on saute à l'autre personne. Parce que les questions doivent être prêtes quand je commence le cours. C'est pas quand on commence les questions-réponses. Tfadal.
Donc je vais reprendre la première question. Donc la question c'était, ma question est en relation avec l'alliance et le désaveu, le wala wal bara. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les différentes catégories d'amour? Donc il dit dans l'amour naturel. Et là, la naturelle, quelles sont les limites? L'amour, comme ça peut être avec son épouse qui est soit chrétienne ou juive, mais là il dit par exemple aimer un kafir par amitié, ça c'est autre chose. Et il dit donc par rapport à ça, est-ce que ça peut entraîner dans un couple asraf? Barakallahu fikoum. Donc la deuxième question, Shir, la personne a parlé du tayammum. Elle parlait bien du tayammum. Donc je vais reprendre la question, je vais vous la lire rapidement. Donc la personne, mercredi dernier, elle avait posé une question concernant la femme incontinente qui avait la peau sèche et de l'eczéma. Donc elle avait demandé si elle pouvait faire le tayammum. Donc elle n'avait pas bien compris si elle devait le faire tayammum en permanence ou alors de façon provisoire. Et quand est-ce qu'elle doit s'arrêter de faire le tayammum? Et donc doit-elle faire le tayammum quand ça va mieux, ou alors elle doit faire le wudu? C'est ce que j'ai compris. Doit-elle faire le wudu quand ça va mieux? Tfadal sir.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Pour les yeux, inshallah ta'ala, c'est comme a dit Cheikh Ben Outaymin rahimahullah. Il a dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas un borgne. Il a dit, ça veut dire qu'il avait deux yeux. Il a dit, comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, si Allah ta'ala avait plus de deux, alors le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam aurait vanté ses éloges, lui aurait fait des éloges en disant qu'il en a par exemple 4 ou 5 ou 10 ou 15 ou 20. Il a dit, puisqu'il n'a cité que ça, cela veut dire qu'il n'en a que deux. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, dans l'un de ses livres, si je ne me trompe pas, c'est l'Umat al-I'tiqad. Il a dit, lorsque le messager alayhi sallam a parlé du Messie Dajjal, il a dit que votre Dieu n'est pas borgne. Il a dit, ce qui implique qu'il a deux yeux. Et s'il en avait plus, c'était l'occasion ou jamais de citer quels sont les nombres de yeux que Allah Ta'ala a pour vanter, yani pour lui faire des éloges. Voilà pour la première question. Pour la deuxième, il faut que les pauvres soient des croyants, premièrement. Et deuxièmement, c'est permis, par exemple, aujourd'hui, dans un mois, une autre personne est comme ça. Il faut que ce ne soit pas les mêmes personnes. Sauf si on est dans un endroit où il n'y a vraiment que les mêmes personnes. Je ne sais pas, peut-être en prison, peut-être. Sinon, il faut que ce soit 10 personnes différentes. Quand est-ce que ça se termine? On va dire que cela dépend de quelle sorte d'expiation il y a. Mais en général, c'est on a jusqu'à la mort. L'essentiel, c'est de ne pas mourir avant d'avoir quoi? Avant d'avoir fait nourrir 10 pauvres. Inch'Allah ta'ala, j'espère que j'ai pas oublié autre chose pour les pauvres. Pour la zakat volée, quand une personne met de l'argent de côté pour les donner à la zakat, ensuite cet argent est volé, alhamdoulilah. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, la personne n'est plus obligée de redonner une deuxième fois. Pourquoi? Car elle les a préparés pour les donner et avec son cœur et son intention, elle l'a déjà donné. Et puis, qaddar Allah, c'est un voleur qui les a pris. Les savants ont dit, à condition qu'elle les a mis dans un endroit, c'est-à-dire sûr. Non, ce n'est pas, par exemple, elle va, par exemple, laisser de l'argent dans sa voiture et la voiture, elle ne va pas la fermer à clé. Et elle va rentrer dans un magasin. Quand elle revient, elle trouve qu'on lui a volé l'argent qu'elle a laissé dans sa voiture. Dans ce cas, un cas pareil, elle doit redonner la zakat. Pourquoi? Elle ne les a pas mis dans un endroit sûr. Mais si c'est dans la maison, alhamdoulilah, c'est caché. Normalement, ça se vole pas. Puisque ça a été volé, alhamdoulilah, tu n'as plus de zakat, bi'idhnillahi ta'ala. Je commence par le mashada, l'eczéma. J'ai dit la fois passée, tant que la personne a du mal et elle ne peut pas faire les ablutions, elle passe au taïmoum. Et quand elle voit que, alhamdoulilah, sa peau est bien et que, mashallah, elle peut maintenant, par exemple, faire les ablutions, elle doit faire les ablutions. Donc c'est elle qui décide et qui sait mieux qu'autrui. Elle sait même mieux que le médecin. Quand est-ce qu'elle a mal et quand est-ce qu'elle peut. Elle peut pas tricher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Quand elle sent que sa peau s'est durcie, mashallah, et qu'elle peut faire le wudu, elle le fait. Quand elle sent que si elle va faire le wudu, que ça va donner des boutons et ça va des plaies ou là, du pu ou là, je ne sais pas quoi, ça va vraiment lui faire mal, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le taïmoum. Mais si c'est seulement par exemple dans les pieds, par exemple l'eczéma seulement dans les pieds, dans ce cas, elle met par exemple des chaussettes. Elle met des chaussettes, comme ça, elle a, mashallah, 24 heures, yani d'essuiement sur les chaussettes. Wallahu a'lam. Quant à l'alliance, l'aveu et le désaveu, et il a dit quelles sont les sortes d'amour, etc. Bien sûr, il y a l'amour naturel, il y a l'amour religieux. C'est pour cela que quelqu'un qui est marié par exemple à une chrétienne, il peut quoi? Joindre entre aimer sa femme et détester ce qu'elle fait comme associationnisme dans sa religion. D'un côté, l'âme, elle, pour yani, elle-même, pour ses sentiments, pour sa gentillesse, pour sa beauté, pour je ne sais pas quoi. Et il déteste, d'un autre côté, ce qu'elle fait comme shirk, comme association à Allah subhanahu wa ta'ala, comme prétention que Jésus est le fils d'Allah, et comme ça. Naam. C'est pour ça que aussi, un reconverti par exemple, d'un côté, il aime ses parents, un amour naturel, car ce sont eux qui l'ont enfanté, ils leur achètent ce qu'ils veulent, condition que ce qu'ils veulent soit halal. Naam. Il les emmène promener, il leur achète des habits, il leur donne ce qu'ils veulent, mouhim, c'est halal, et en même temps, ils détestent, yani quoi ? Ils détestent leur position religieuse, le fait qu'ils soient mécréants et qu'ils ne soient pas rentrés en islam. Et, alhamdoulilah, on peut joindre entre les deux. D'un côté, j'aime ma mère, et d'un côté, je déteste sa religion. J'aime ma mère, qui a été la cause de mon existence sur cette terre, alhamdoulilah, et je lui fais ce qu'elle veut, quand ça ne se contredit pas avec ma religion, et en même temps, je déteste sa religion. Je déteste, yani, ça, yani, ses sentiments, en disant, religieux. Maintenant, pour avoir un ami qui est mécréant, par exemple, cela dépend, hein, qu'est-ce qu'il veut dire ici par ami. Il veut dire c'est quelqu'un, un collègue de travail, ou bien il veut dire c'est quelqu'un que je côtoie avec l'intention de lui montrer c'est quoi l'islam, de lui montrer la beauté de l'islam. Deux, je le côtoie avec l'intention de l'attirer vers l'islam. Tout cela n'est pas interdit. Au contraire, tu auras même des récompenses. Rappelez-vous toujours que Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, une fois, il a demandé à son serviteur d'égorger un mouton. Le hadith se trouve dans Sahih Tirmidhi de Sheikh al-Albani. Quand il est revenu de la mosquée, il lui a dit, est-ce que tu as égorgé le mouton? Il lui a dit oui. Il lui a dit, est-ce que tu as donné à notre voisin le juif? Est-ce que tu as donné une partie à notre voisin le juif? Le juif, le juif. Subhanallah l'alim. Il n'a pas pensé à son père ou là, à sa mère ou là. Il a pensé à son voisin le juif. Naam. Subhanallah l'alim. Quand je donne à quelqu'un ou là je côtoie quelqu'un, là, toujours c'est dans le but de lui montrer c'est quoi l'islam. Naam. Mais maintenant, si je côtoie quelqu'un ou je fais de quelqu'un un ami à cause de yani, son din, à cause de sa religion, parce que ça me plaît sa religion et ça, je peux rentrer dans le grand coffre comme je peux rentrer dans le petit. Je peux rentrer dans le grand comme je peux rentrer dans le petit. Cela dépend de ce qu'il y a dans mon cœur. Si j'aime maintenant sa religion, je suis rentré dans le grand. Mais si je le côtoie, comme j'ai dit, avec une bonne intention, toujours l'intention de lui montrer c'est quoi l'islam, et de faire des doigts pour que Allah Ta'ala le ramène vers le droit chemin, Inch'Allah Ta'ala c'est permis, tu as même des récompenses, bi'idhnillahi Ta'ala. Tant que tout cela, tant que cette personne n'est pas une personne belliqueuse, c'est-à-dire belligérante, c'est-à-dire on n'est pas rentré avec cette personne en guerre. Celui-là, cette personne, ce mécréant, n'est pas quelqu'un qui me fait la guerre. Non, c'est quelqu'un qui, avec moi et lui, il y a une trêve ou là, un traité de paix ou là il y a des pactes. Non. Tafadhal inchallah le suivant.
Non, donc les questions suivantes inchallah. Question de Umsana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici ma question, Inch'Allah. Le grand-père d'une sœur souhaite savoir, Inch'Allah, à quel moment la salat janaza avait été rendue obligatoire et sur qui elle avait été priée pour la première fois. Barakallahu fikum, shir, le salam chez vous. Question de Ridaz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma mère fait la prière en commun avec mon père. Et comme nous le savons si bien, la prière en commun a un grand mérite. Le problème, c'est que mon père, niveau récitation, c'est un train à grande vitesse. Du coup, lorsque ma mère fait la prière avec mon père, elle ne ressent pas le khushu. Que doit-elle faire? faire sa prière seul ou bien continuer à faire la prière en commun avec mon père, entre parenthèses, en sachant que nous faisons nasiha à mon père, mais il le prend assez mal. Il a 70 ans. Allahu barak. Barakallahu fikoum, cher. Nous vous aimons fillah très fort. Mes frères et sœurs, venez dans la section Europe. Le cheikh vous le demande. Vous pouvez lui rendre ça. Naam, comme elle le dit la personne. On vous le redemande plusieurs fois, Inch'Allah. Vous êtes des fois plus de 200 sur la room de cheikh, alors que vous êtes 100 personnes en moins sur la section Europe. Alors qu'on vous demande juste d'être présent, rien d'autre. Vous êtes juste présent, vous écoutez le cheikh dans cette room en section Islam, et votre pseudo est présent dans l'autre room. Jazakumullah khairan. Question de Abu Omar. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur demande: je sais que si une femme passe devant nous pendant la salat, alors celle-ci est annulée. Mais je voudrais savoir que si on est en salat et qu'une femme ne passe que le bras devant nous, parenthèse, pas entièrement, juste le bras, notre salat est-elle invalide? Je demande à Allah qu'il vous ressuscite parmi les pieux. Jazakumullah khair, les admins. Amin wa yak. Tfadala akhir ghuraba.
Voilà. Donc la question de Abu Daoud, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie Allah qui nous a permis d'écouter les cours et d'avoir une bonne connexion. Je vous remercie pour le temps que vous nous accordez et je remercie les admins. Ma question est, s'il vous plaît, excusez-moi de mon manque de science et de mon ignorance, mais je n'arrive pas à comprendre un des noms d'Allah. Pouvez-vous me l'expliquer, s'il vous plaît? Ce nom est Al-Mutakabbir. Cheikh, vous avez essayé les aubergines avec du coulis de chocolat et de la crème chantilly, c'est un peu d'humour. Voilà, je passe à la deuxième question, Inch'Allah. Question de Kitab ou Sunna. Salam alaikum wa rahmatullah, Yachir. Voilà, pouvez-vous faire un petit rappel ou une nasiha sur l'importance et l'obligation de mettre le voile shar'i en islam, car deux personnes qui vous écoutent maintenant ont beaucoup de mal à le porter, en sachant qu'elles vivent dans les pays de Kufr. Une nasiha qui les aidera à craindre Allah Azzawajal, Inch'Allah, wa jazakumullah khaira. Tfadal, Cheikh.
En ce qui concerne le voile, est-ce que tu as dit que yani, elle ne le porte pas du tout, ou bien elle le porte, mais pas conformément à ses conditions?
Cheikh, d'après la question, ces deux personnes-là doivent pas le porter selon les conditions islamiques. Elle doit porter sûrement un petit voile, pas le gilbeb. Trop dans le cheikh. À fond de cheikh, donc c'est bien ça, elle porte pas du tout le voile. Jazakumullah khair. Excusez-moi, je reprends le micro, cher. Donc pour ceux qui n'ont pas encore envoyé les questions, barakallahu fikoum, préparez vos questions en avance, envoyez-les en PV. Pour une speak, envoyez-les moi en PV. Jazakumullah khair. Et donc allez aussi sur la room qui se trouve en Europe. Rabbi jazakum.
Alhamdulillah. Tayyib. Je commence. Vous m'entendez ça? Je commence par répondre à la première question, inshallah ta'ala. La question du grand-père. Naam. D'abord, je lui passe le salam, ensuite à toute la famille, et la famille de la sœur aussi. C'est dommage que maintenant, Yanni, je ne me rappelle pas qui c'est cette personne sur laquelle le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait la première salat. Je sais que beaucoup Beaucoup ont dit que c'est As'ad ibn Zurara. Non, beaucoup ont dit que c'est As'ad ibn Zurara. Mais je voudrais, inshallah ta'ala, confirmer pour pouvoir dire cela. Donc ça, c'est l'avis de la plupart. Mais inshallah ta'ala, je voudrais confirmer la prochaine fois bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Non. Pour le père, pour la prière avec le mari qui lit, non, qui lit comme lorsqu'on est dans un train, là, dit. Non. De toute façon, la plupart yani, de nos pères et de nos grands-pères font ainsi la prière. Font ainsi la prière. Non. S'il lit de façon à ce que yani, c'est compréhensible ce qu'il lit. Non. On peut faire la prière avec lui. Et bien sûr, c'est lui qui a la faute, ce n'est pas nous. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il vous guide dans la prière. S'ils font bien, c'est pour eux et pour vous. Et s'ils font mal, c'est pour vous et contre eux. Comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc moi, tant qu'il lit quelque chose de compréhensible, même si c'est un peu vite, dans ce cas, je fais avec lui la prière et c'est lui qui endosse. Toutefois, si je peux yani, lui donner quelques conseils, ce serait mieux de lui dire, yani, voilà, si tu pouvais un peu yani, ne pas aller vite pour qu'on comprenne ce que tu dis, quitte à ce que tu nous lises des sourates yani, courtes, comme qul huwallahu, qul a'udhu bi rabbil falaq, non, ce serait mieux. Tayyib, pour qu'est-ce qu'il reste? Non, pour la femme, si jamais elle est pubère et elle traverse entre le prieur et la sutra, bien sûr, elle a annulé la salat. Mais si elle allonge seulement son bras, par exemple, non, la salat n'est pas invalide. La salat est toujours valide. Pourquoi? Parce que comme condition pour que la salat devienne invalide, il faut que la femme passe. Il faut que la femme passe. Et non pas seulement elle tend sa main. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dans le hadith authentique, faisait la prière, et Aïcha, que Allah ta'ala l'a gré, était dans sa qibla. Dans sa qibla, subhanallah al-azim. Quand il voulait se prosterner, il la pinçait comme ça, elle levait, yani, elle se yani, joignait comme ça pour le laisser mettre yani, sa tête. Ensuite, quand il se relevait, Elle s'étendait entre sa qibla et lui. Donc ce n'est pas interdit hein, de mettre sa main ou là. Mais ce qui est interdit, c'est de passer yani, d'un endroit à l'autre, de lui couper la salat. Et enfin, pour le mutakabbir, Allah subhanahu wa ta'ala, l'un de ses plus beaux noms, c'est le mutakabbir. Je ne sais pas en français comment on dit de lui le mutakabbir. Je le connais, si je l'ai oublié. S'il y a quelqu'un qui peut nous dire comment on dit en français le mutakabbir, en parlant de Allah subhanahu wa ta'ala, l'orgueilleux. Tayyib. Ici, les savants ont dit, Allah ta'ala mutakabbir, ce n'est pas comme les personnes. Mutakabbir, il ne veut pas parler avec, on dit une personne, on dit d'elle, elle est orgueilleuse, elle ne veut pas parler avec les gens, elle ne veut pas accepter la vérité, elle se vante, etc. C'est pas dans ce sens. Allah Ta'ala est orgueilleux, c'est-à-dire que il est plus haut que quoi? Plus haut que le fait de faire, par exemple, des choses qui sont pas bien, de faire de l'injustice, de faire des péchés, et comme ça. C'est ça, mutakabbir. Comme a dit Qatada, il a dit mutakabbir an su'. Non, Allah Subhanahu wa Ta'ala est plus haut. C'est ça l'orgueil, être plus haut, te sentir plus haut. Et plus haut que quoi? Que de faire yani, de l'injustice, de faire des choses qui sont pas bien, de faire du dolm. Voilà ce que ça veut dire, mutakabbir, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas, bien sûr, vantard. Reste pour le voile, naam, je voudrais dire, pour nos sœurs qui assistent avec nous, bi'idnillahi ta'ala, et qui n'ont pas encore mis le voile, naam, que yani, c'est vraiment quelque chose de grave. et qu'elles devraient beaucoup plus penser à demain, qu'est-ce qu'elles vont dire quand elles vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit des femmes qui ne portent pas le voile et qui meurent, il a dit que celles-là ne rentreraient pas au paradis et ne sentiraient même pas son odeur. Ne sentiraient même pas son odeur. Les savants ont dit, non, cela veut dire ici que c'est pour le fait de celle qui ne reconnaît pas le statut du voile. Et elle devient mécréante, elle ne rentre pas au paradis. Ou bien cela veut dire, comme disent les savants aussi, ça veut dire qu'elle ne rentre pas avec les premiers. C'est-à-dire qu'elles vont d'abord en enfer pour se purifier. Ensuite, elles vont revenir, je ne sais pas après combien de temps, peut-être 100 ans, peut-être 1000, peut-être 1 milliard d'années. Ensuite, elles vont revenir pour rentrer au paradis. Alors imagine, ma sœur, que demain, yani Allah subhanahu wa ta'ala vraiment soit en colère contre toi et qu'il t'éloigne de son paradis jusqu'à ce que yani, tu ailles en enfer. Ensuite, jusqu'à ce qu'il décide, je ne sais pas après combien de temps, pour qu'il te fasse sortir pour aller au paradis. Subhanallah al-Azim. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Rabbana, innaka man tudkhili an-nara faqad khzayta wa man al-zalimina min ansar. Rabbana, ô mon Seigneur, ô notre Seigneur, quiconque tu fais rentrer en enfer, tu l'as humilié, tu l'as avili. C'est dire que toute personne qui rentre en enfer, même une seconde, khlas, elle est humiliée. Elle sort yani, comme du charbon. D'ailleurs, elle sort même écrit sur sa tombe, Jahannami. C'est-à-dire que cette personne était à Jahannam. Subhanallah al-Azim. Tellement Allah est en colère d'elle. Donc moi, je vis ici pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je me moque de ce que disent les gens. Ce que disent les gens, la plupart ne mettent pas le voile à cause des gens. Ils disent, moi, que vont dire les gens, j'ai honte, je suis complexé. Tous ces gens-là, demain, ne vont te servir à rien. Tous ces gens-là, demain, avec tout leur argent, tout leur piston, toutes leurs connaissances, ils vont pas yani, pouvoir te sortir de l'enfer ou alors yani, intercéder en ta faveur pour que Allah Ta'ala ne te fasse pas rentrer en enfer. Non. Comme on dit, nafsi, nafsi, mon âme, chacun maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une certaine durée de vie, là, il va la vivre sur cette terre, c'est un examen. Toi, profite alors pour passer ton examen avec les meilleures notes possibles. Ce n'est pas, je vais dire, j'ai honte de X et Y, etc. Et je vais me trouver quoi? Yani, je vais échouer à mon examen, alors que peut-être les autres personnes, yani, desquelles même j'avais honte, peut-être que elles vont faire le repentir, elles vont être, yani, elles qui me critiquaient, elles vont être les premières à appliquer. Moi, j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, je n'adore pas les gens, je n'adore pas mes passions. Allah ta'ala, celui qui m'a créé, celui qui m'a ordonné de faire la salat, c'est lui-même qui m'a ordonné de me voiler. Il m'a dit que, attention, c'est vraiment grave de ne pas être voilé. Et je peux mourir d'un moment à l'autre. Non. Moi, je veux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'en fous des gens. Non. Atfadla, inshallah ta'ala. Faut suivre.
Non, donc on passe aux questions suivantes, inshallah. Question de Zainab. Assalamu alaikum, Cheikh. Hayakumullah. Wajazakumullah khayran pour vos cours. De nos jours, beaucoup de musulmans, y compris des frères et sœurs du Minhaj, se contentent de dire salam au lieu de salamu alaikum. Je voulais savoir ce que dit la sunna par rapport à cela. Est-ce permis de répondre salamu alaikum par salam? Donne-t-on le haq à notre frère lorsqu'on agit ainsi? Barakallahu fikum. Question de Maïsara. Salam alaikum. Je vous remercie, cher, ainsi que les admins, pour le travail que vous faites. Qu'Allah vous accorde le meilleur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Amin wa yaki. J'aimerais savoir si je peux bénéficier d'une mutuelle, sachant que la sécurité sociale me la finance. La sécurité sociale m'envoie un chèque que seule une mutuelle peut encaisser, sachant que je n'aurai pas à sortir d'argent de ma poche, puis-je bénéficier ou cela reste quand même la yajuz? Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve. Question de Umulina. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. J'ai une question qui concerne ma relation avec mon mari. J'ai expliqué au Cheikh la situation samedi dernier. Il ment, chatte sur internet avec des femmes et ment sur encore beaucoup de choses. Et quand je lui dis la vérité, il nie. Il m'a divorcé, m'a laissé et m'a dit de ne plus l'appeler, de l'oublier. Il ne prend pas de mes nouvelles et ne paye que l'EDF, c'est-à-dire les factures d'électricité. Je voulais savoir si je peux parler à des responsables de mosquée pour les prévenir de ma situation, car mon tuteur et mon beau-frère, entre parenthèses, le mari de la sœur de mon mari, donc je n'ai pas de soutien de ce côté. Barakallahu fikum, de me conseiller sur le fait de savoir à qui je peux parler, Inch'Allah. Entre parenthèses, il est converti et ses amis, je ne les connais pas car je ne suis pas originaire de l'endroit où il vit. Je suis la deuxième femme et je suis converti et pour l'instant, il est chez sa première femme. Parenthèse, depuis un mois et demi. Ma question est, puis-je avertir les responsables de mosquée du comportement de mon mari? Comment faire si je sors sans autorisation puisque je n'ai pas de contact avec lui? Et puis-je demander le khula même s'il m'a divorcé? Qu'Allah vous récompense et vous donne le plus haut niveau du paradis, le Firdaus, qu'il fasse de vos enfants des musulmans pieux et des savants. Tfadala khir ghulaba. Comment ça, chère, elle veut parler de quoi? Je disais pas la roue en même temps. Tfadala khir.
Il manque deux questions. Naam. J'ai trois questions, il manque deux questions. Ensuite, la sœur, elle veut parler de quoi? C'est-à-dire mettre en garde contre lui, c'est ça?
Naam, cher, je pense que c'est ça par rapport au fait qu'elle ne veuille pas, en fait, qu'il fasse ça avec quelqu'un d'autre. Allahu a'lam, je pense que c'est ça le but de sa question. Attendez, elle m'envoie le... Tout à fait, elle a dit naam, tout à fait, c'est bien ça. C'est bien ça, cher. Tfadal, akhir ou là-bas.
Donc, la question de... alors, Saif Din 1. Salam alaikum, Cheikhana. Ouhibboukoum fillah. Y a-t-il des noms et attributs plus aimés par Allah que d'autres? Qu'Allah préserve les admins pour leur travail et les récompense. Amin. Jazakallah khair. Deuxième question de Bismillah 1986. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Est-il permis de faire une assise où l'on se contente de réciter des hadiths de Riyad Salihin, de l'imam Nawawi, rahimallah, sans l'explication des savants sur le sujet? Jazakallah khair, Cheikh. Tfaddal, Cheikh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب. On va commencer inshallah ta'ala par celle qui a parlé de la mutuelle. نعم, la mutuelle. Vous savez quand, je ne sais pas exactement de quoi parle cette personne. C'est tellement compliqué, tellement ça se ressemble. Je dis, si c'est une personne par exemple qui travaille, par exemple, moi je travaille. Et ensuite, chaque mois, on m'enlève de ma paye. On m'enlève de ma paye, une part. Je ne sais pas combien. Par exemple, c'est comme ça que ça se passe en Algérie. Et demain, quand je tombe malade, hein, j'ai le droit, par exemple, de me soigner. Ce sont eux, par exemple, qui me payent. Par exemple, là, où là je subis une opération, c'est la mutuelle qui paye, ou quelque chose comme ça. Si c'est comme ça, ça se fait, c'est possible. Les savants ont dit oui. Non. Premièrement, c'est lui qui t'a pris de force. Il t'a pas demandé ton avis. Ce n'est pas toi qui est allé t'inscrire à une mutuelle. Non. Deuxièmement, c'est ta'awuni. Les savants ont dit ici, c'est yani, ce n'est pas pour but. Ils prenaient ça, c'est pas pour but de gagner de l'argent, comme font certaines sociétés privées ou lucratives. Mais c'est surtout pour but d'aider, d'entraide. Donc c'est pour ça que les savants disent la mutuelle d'entraide est permise. C'est comme si, je l'ai dit une fois, des gens ou là voulaient mettre une caisse commune, on met de l'argent à l'intérieur. Chaque mois, par exemple, on met 50 euros là. Ensuite, à chaque fois qu'une personne tombe malade ou bien a besoin d'acheter des médicaments, on lui donne. On lui donne de cette caisse. Ils ont dit ça, c'est pas interdit, bien sûr. Donc c'est à elle à voir, est-ce que la mutuelle dont elle parle, c'est la même dont je suis en train de parler. C'est pour ça que aussi, il est permis, quand quelqu'un travaille, on lui enlève chaque mois une certaine somme d'argent, il lui est permis qu'il prenne de la retraite. Quand il termine le travail, il va à la retraite et on va lui rendre son argent, l'argent qu'on lui prenait. Ensuite, on va passer à celle qui a dit, pour la divorcée, la sœur qui est divorcée, maintenant elle demande si elle peut demander le khola. Elle peut pas, puisque déjà elle est divorcée. Et peut-être qu'elle est, c'est pas peut-être, c'est sûr, s'il l'a divorcée, elle est maintenant dans sa période de viduité. Est-ce qu'elle peut mettre en garde contre lui? Bien sûr. S'il a un mauvais comportement et qu'il l'a eu, etc., elle peut mettre en garde contre lui. Mais à condition qu'elle ne s'attire pas des problèmes. Car elle peut s'attirer des problèmes avec lui, il peut la frapper, il peut, je ne sais pas ce qu'il peut lui faire. Mais à chaque fois, par exemple, qu'elle sait qu'il va demander la main à une personne, elle peut lui dire, attention, cet homme, c'était déjà mon mari, et voilà comment qu'il est de caractère, etc. Et tu le fais pas parce que tu veux te venger de lui, mais tu le fais par nasiha. Tu n'aimes pas qu'il arrive à ta sœur ce qui t'est arrivé à toi. C'est ça la foi, d'aimer. Aimer à autrui ce qu'on aime pour nous-mêmes, et détester à autrui qui lui arrive ce qu'on déteste qui nous arrive nous. Donc toi, si jamais tu sais qu'il va demander la main d'une sœur ou l'autre, tu peux lui faire des nasiha. Mais pour aller à la mosquée et y en parler de lui, etc., maintenant je pense que c'est trop tard puisqu'il t'a déjà divorcé. Mais si tu sais que tu vas pas t'attirer d'autres ennuis, c'est possible de dire, voilà, cette personne, il faut faire attention à elle, c'est un menteur, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est toujours d'après, est-ce que ça va t'attirer des ennuis ou pas. Et moi, je conseille, enfin, pour terminer, je conseille à cette sœur-là, je lui conseille, écoutez, maintenant tu es divorcé, maintenant toi, Inch'Allah, tu vois comment yani recommencer une vie à nouveau. Et, alhamdoulilah, ce qui est arrivé, Allah Ta'ala l'a voulu. Même s'il ne l'a pas aimé, il l'a voulu. S'il ne l'avait pas voulu, il ne serait pas arrivé ce divorce. Ensuite, toi, maintenant, tu deviens plus mûr. Avec ce divorce, on devient mûr. On va se dire, voilà, ce qui m'est arrivé, maintenant, c'est une leçon. C'est une leçon. Comme ça, la prochaine fois, quand je vais me remarier, je vais être plus sévère dans mes conditions. Je vais être plus attentif, plus ceci, plus cela. Ce n'est pas comme la première fois, yani le premier venu, on l'accepte. Maintenant, non. Je vais être plus sévère pour qu'on ne joue pas de moi. Car je vous ai toujours dit, je redis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui se remarient en deuxième, c'est-à-dire en co-épouse, yani, en France, je m'excuse yani, si je dis ça, peut-être certains, ça va les énerver, mais en France, yani, c'est presque un jeu. C'est presque, ça ne tient pas debout. C'est pour ça que si jamais ça ne marche pas, le frère toujours divorce la deuxième, il ne divorce pas la première. Vous n'avez pas remarqué? Vous connaissez quelqu'un qui a divorcé sa première femme quand il a épousé une deuxième et une troisième? Jamais, c'est toujours la deuxième qui paye l'époux. Donc moi maintenant, quand je veux me marier en deuxième épouse, il faut que je sois sûr que c'est un homme qui ne joue pas. Et que je donne mes conditions et que je sois au même niveau que la première. Sinon, c'est pas la peine de me marier. Le mohim, je demande à Allah Ta'ala, le Tout-Puissant, qu'il t'aide et te fasse une issue très prochainement, et te fasse oublier tes soucis, et te comble, Inch'Allah Ta'ala, de bonheur. Pour la personne qui a dit, pour les assises, faire une assise en lisant seulement des hadiths. C'est possible. On fait une assise, on lit seulement les hadiths sans les expliquer. Ou alors, on écoute seulement le Coran sans l'expliquer aussi. mais à condition qu'il n'y ait pas de question. À condition qu'il n'y ait pas de question. Non, parce que, en écoutant un hadith, quelqu'un peut dire qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Non, je n'ai pas le droit de répondre si je ne suis pas sûr de ma réponse et que je n'ai pas au moins la science de ce hadith. Si je ne suis pas un savant, mais au moins j'ai la science de ce hadith pour pouvoir répondre. Sinon, comme j'ai dit, on peut seulement écouter, non, sans faire de commentaires. Pour la personne qui a dit, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait des noms ou des attributs plus aimés? Naam, Allah subhanahu wa ta'ala a des noms, naam, par exemple comme le nom, son nom Allah, Allah, ce nom-là, c'est quoi? C'est le nom le plus essentiel de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est envers lequel tourne, ou là autour duquel tournent tous les autres noms d'Allah Azza wa Jalla le beau. C'est pour ça qu'il y a dans un hadith authentique, par exemple, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu quelqu'un dire « Je demande à Allah Ta'ala que c'est lui l'ahad, l'samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, de me donner telle et telle chose. » Il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Celui-là va être exaucé. » Parce qu'il a demandé Allah Ta'ala par ses meilleurs noms. Que c'est lui Allah l'ahad, l'samad, celui qui n'a pas été enfanté, qui n'enfante pas. Non. Ce sont par exemple là des certains yani, noms et attributs qui sont mieux que les autres. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi dans un hadith que Al-Hayy al-Qayyum, ces deux noms-là, ce sont les deux noms avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala répond quand quelqu'un fait des doigts. Quand quelqu'un fait des doigts, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant à Allah. Je te demande en étant toi Al-Hayy al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayy al-Qayyum. De me donner telle et telle chose, il a dit que Allah Ta'ala lui donne. Parce que Al-Hayy al-Qayyum, c'est vraiment les, non seulement les plus bons noms, mais encore les meilleurs. Non. Enfin, pour la personne qui a dit que, il y a une personne qui dit seulement salam. Au lieu de dire salam alaykum, elle dit seulement salam. Est-ce que ça c'est de la sunnah? Réponse, ça n'a rien à voir avec la sunna. Naam. Dans la sunna, on dit salam wa alaykum. Naam. On ne dit pas seulement salam. En disant seulement salam, ça ressemble un peu à salut. Au lieu de dire salut, tu dis salam. Salam. C'est pas loin de salut. Salut. Il faut dire salam wa alaykum. Salam, un nom d'Allah qui est sur qui? Tu dis sur vous, alaykum. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit. Si, par exemple, on est avec une personne, on rentre, par exemple, dans une épicerie ou là, et, par exemple, il y a un kafir et on ne sait pas ce qu'on doit lui dire salam, ou là, on ne dit pas, ou là, c'est un musulman, on ne sait pas. Le moïm, il a dit, on peut esquiver en disant seulement salam. Et, dans ton cœur, tu dis, alayna. C'est-à-dire, pas sur vous, c'est sur nous. Salam, et tu dis, dans ton cœur, entre tes lèvres, alayna. C'est-à-dire, sur nous, pas sur vous. Mais, dire à quelqu'un qui rencontre quelqu'un musulman, lui dit salam, il n'y a pas ça. Il y a salam wa alaykum, c'est le minimum. Qu'est-ce qu'il reste encore? Voilà, inshallah ta'ala, t'fadal les 5 prochaines questions.
Non, donc on passe aux prochaines questions, inshallah. Et je demande donc aux personnes dont leur question est passée, que ce soit sur Paltalk ou là sur InSpeak, qu'elles baissent la main, inshallah, afin de voir où on en est. Question de Al-Hikma 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Hayakum Allah ya Cheikh. Voici le cas d'une sœur qui demande. Mon mari n'est pas pratiquant et ne craint pas Allah. Il me maltraite psychologiquement, insulte et injure pour un oui ou pour un non. Et physiquement, il me bat souvent lorsqu'on se met en colère. Il m'assume financièrement. Mais je suis affaibli de patienter face à son comportement. Nous avons eu un bébé et je crains énormément pour son éducation, car il va grandir dans un environnement très néfaste et loin de l'islam. Lorsque je lui parle de l'islam, il m'écoute, mais ça n'y fait rien. Et à cause de cette situation, je n'avance plus dans ma foi. Aujourd'hui, je veux divorcer. Ma question est la suivante. Puis-je demander le divorce dans mon cas? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Allahu musta'an. Question de Abdullah. Salam alaikum, cher. Voilà ma question. Porte sur ma nièce qui a été vue avec un garçon. Après m'avoir informé de ça, je lui ai fait la nasiha sans rien lui dire de ce qu'on m'avait informé. Je lui ai beaucoup parlé, acheté des livres, mais ça n'a rien donné, car elle est venue chez moi et le garçon a appelé sur le téléphone de la maison et ensuite elle l'a rappelé avec le téléphone de la maison. Que dois-je faire? Le dire à son père, aller voir le garçon, recommencer la nasiha ou se taire sur ce péché? Question de Suhail. Assalamu alaikum, Cheikhana. Hayakum Allah. Wa barakallahu fikum. Ma question concerne Zakat al-Zab. J'ai contacté le vendeur en bijouterie qui m'a précisé qu'il y avait deux prix différents de l'or. Soit il y a le prix de l'or brut qui est environ 27 euros le gramme, soit le prix de l'or transformé qui a environ 22 euros. Quel prix dois-je prendre? Puis-je donner cette zakat à ma mère qui est dans la nécessité? Dans les deux cas, il s'agit du prix de vente, c'est-à-dire donc en brut et transformé. Dans les deux cas, c'est le prix à lequel c'est le prix auquel elle peut l'acheter. Tfadala khir wala.
Donc on passe à Inspeak. La question de la boussole. Yani, après salam alaikum. Non, pour la salade, peut-on prier assis si on est fatigué de peur de négliger la salade? Jazakumullah khair. La question de Abu Hassan. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Qu'Allah vous récompense pour votre science et qu'Allah vous met au nom des savants, Inch'Allah. Est-ce qu'on doit lever un enfant de 8 ans pour la salade du Fajr? Barakallahu fikum wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfaddal, Cheikh.
Naam. Je voudrais que vous me relisez, si c'est possible, la première question. De celle qui dit, est-ce que c'est possible, en mon cas, de demander le divorce? Tfaddal.
Naam, je répète, Inch'Allah, Cheikh. Voici le cas d'une sœur qui demande. Mon mari n'est pas pratiquant et ne craint pas Allah. Il me maltraite psychologiquement. Entre parenthèses, insulte et injure pour un oui ou pour un non. Et physiquement. Entre parenthèses, il me bat souvent lorsqu'on se met en colère. Il m'assume financièrement, mais je suis affaibli de patienter face à son comportement. Nous avons eu un bébé. Et je crains énormément pour son éducation car il va grandir dans un environnement très néfaste et loin de l'islam. Lorsque je lui parle de l'islam, il m'écoute, mais ça n'y fait rien. Et à cause de cette situation, je n'avance plus dans ma foi. Aujourd'hui, je veux divorcer. Ma question est la suivante. Puis-je demander le divorce dans mon cas? Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Donc, Inch'Allah, répondez-moi en PV, Al-Hikma 31. Est-ce que le mari de la sœur fait la salat? Non, cher, il ne fait pas la salat. Tfadal, cher.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salat, salam, al-Shaf al-Mursalin. Je commence par l'enfant de 8 ans. Naam. Nous, on essaye de le réveiller. S'il peut, Alhamdulillah, s'il ne peut pas, ça le dépasse, yani, Alhamdulillah aussi, qaddarallahu ma sha fa'al. Voilà comment on fait. Et on essaye de l'habituer. Ou du moins, yani, de le faire, yani, de temps en temps, du moins. Surtout les jours où il ne va pas à l'école, par exemple. Sinon, si c'est possible, on le fait toujours pour qu'il apprenne, yani, et que ça soit, ça devienne une habitude pour lui de se lever, faire la salat du matin. Et maintenant, s'il n'arrive pas, etc., au moins on a fait devant Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on doit faire. Mais on ne fait pas comme certains gens, on le laisse comme ça carrément, carrément, et on dit, khalina hada, yani, il est jeune. Non. Dit premièrement. Ensuite, pour la zakat, pour le prix, vraiment, je n'ai jamais lu, yani, quelque chose qui dise, est-ce que c'est le prix, yani, brut, ou l'autre prix. Allahu alam. Je ne sais pas. Mais je lui dis que, elle peut donner la zakat à sa mère. Elle peut donner la zakat à sa mère, si sa mère rentre dans les 8 catégories. Comme la femme peut donner aussi la zakat à son mari. La femme peut donner la zakat à son mari s'il rentre dans l'une des 8 catégories. Quant à lui, il ne peut pas donner à sa femme. Parce que lui, il doit la nourrir et travailler sur elle. Naam. Voilà la différence. Donc, inshallah ta'ala, pour le prix, est-ce que c'est en brut ou autre chose, ça, inshallah ta'ala, je verrai. Naam. Sinon, bien sûr, elle prend, si elle veut sortir des problèmes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mise et elle base sur ce qui est plus élevé. Ce qui est plus élevé, comme ça, elle aura donné un peu d'argent en plus à sa mère. Inch'Allah ta'ala. Naam. Pour prier assez. Prier assez, vous savez que si c'est nafila, tu es libre. Allah ta'ala t'a donné la liberté. Entre tu pries assis ou tu pries debout. Toutefois, si tu pries assis, tu as seulement la moitié des récompenses. Sauf le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a la particularité que s'il prie assis, il a toutes les récompenses, sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit dans un hadith authentique. Mais toutes les autres personnes, hein, s'il prie la nafila assis, il a seulement la moitié des récompenses. S'il l'a pris debout, il a toutes les récompenses. Quant à la salat obligatoire, personne n'a le droit de la faire assis. Sauf s'il a des excuses, comme par exemple les hémorroïdes, ou bien des choses qui lui font mal, de façon à ce qu'il ne peut pas la faire debout. Et celui-là aussi ne va pas s'asseoir que, yani, par exemple, s'il peut par exemple dire Allahu Akbar debout, il doit dire Allahu Akbar debout. Ensuite, il s'assoit. S'il peut dire Allahu Akbar et lire un peu le Fatiha debout, il lit d'abord ce qu'il peut debout, ensuite il s'assoit. Mais si vraiment il est malade au point qu'il ne peut pas se tenir debout du tout, celui-là il s'assoit, il fait tout assis. Donc il faut bien yani, faire la différence entre la nafila et l'autre. La nafila, tu es libre, mais la prière obligatoire, attention, tu crois que yani, c'est permis, tu vas dire Khali, je choisis ou là je suis un peu fatigué. L'okhra, Farida, obligatoire, tu dois la faire debout. Maintenant, si, en commençant debout, vraiment tu sens que tu es fatigué au point où yani, tes jambes vont tomber ou là, Allah subhanahu wa ta'ala te permet ici de t'asseoir, naam, et, inshallah, quand tu vas la faire assis, une raka'a, deux, peut-être la troisième raka'a, tu peux te lever. Si tu peux te lever la troisième, quatrième raka'a, tu n'es plus pardonnable de la faire, de la continuer assis, vous comprenez? Non, car là-bas, c'est de la faire debout. Et pour reste deux choses. La première, pour la personne non, qui a parlé de la nièce, le garçon, etc. Dites-moi d'abord, est-ce que vous m'entendez, inshallah ta'ala? Non. D'abord, est-ce que vous m'entendez? Vous m'avez confirmé? D'accord. Alhamdulillah. Donc, pour la nièce et le garçon, ce qu'elle doit faire maintenant, cette sœur, cette personne, elle doit faire un tête-à-tête avec sa nièce et lui dire, écoute, maintenant, j'avais des doutes, etc., j'ai pas voulu te dire. Ensuite, regarde, j'ai employé avec toi la sagesse. Tu as acheté des livres, ceci, cela, en essayant de t'attirer, hein, mais de te faire yani sortir de cette mauvaise voie. Mais maintenant, je vois que tu persistes et tu insistes. La preuve, il t'a téléphoné derrière moi et tu lui as même téléphoné toi. Donc, avant que je ne fasse grandir l'affaire, je vais, Nam, laisser cette affaire entre toi et moi, mais à condition que tu me promettes que tu lui téléphones pour lui dire de te laisser tranquille, exterminer. Sinon, je vais faire grandir cette affaire dans la famille. Je vais dire à ton père, à tes frères, etc. C'est comme ça qu'elle doit faire. Quitte à aussi à appeler le garçon, puisqu'elle a son numéro de téléphone. Et de lui dire, si jamais encore une fois tu téléphones, son père va aller à la police, déposer plainte pour lui faire peur. Parce qu'il a peur en lui disant peut-être cela, ou je ne sais pas quoi. Ou bien ses frères vont te frapper, ou je ne sais pas quoi. Pour l'éloigner, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais elle ne doit pas laisser l'affaire aller comme ça. Elle doit commencer par sa nièce, entre elle et elle, en tête à tête. Et voir qu'est-ce que ça va donner. Sinon, elle passe à la deuxième étape. Sinon, elle met quatre sur table. Parce que, pour la faire revenir. Enfin, pour la personne qui a dit est-ce qu'elle pouvait divorcer, en citant le cas de son mari, qui ne pratique pas, et entre autres, ne fait pas la salate, je lui dis, tous les savants sont unanimes pour dire qu'un mari qui ne fait pas la salate, qu'il est non seulement il est permis de divorcer avec lui, mais que mieux encore, il est haram de rester avec lui. Il est haram, interdit, chez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'une femme reste avec un mari qui ne fait pas la prière, ou qu'un mari reste avec une femme qui ne fait pas la prière. C'est haram, haram, haram. Quand il va rencontrer Allah ta'ala, il va le rencontrer avec des péchés. La plupart on dit il est kafir, la plupart. Nous, même si on dit pas il est kafir, on dit qu'il est interdit, qu'elle vive avec lui, qu'il vive avec elle. Seulement, je conseille cette sœur, avant de demander le divorce, de lui donner un ultimatum. De lui dire, par exemple, je te donne 15 jours. Voilà, j'ai demandé, j'ai demandé à des gens, et des gens qui connaissent, et ils m'ont dit que voilà, c'est interdit, tu dis que Ibn Taymiyyah a dit, tu dis Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, a dit dans Majmou'a Fatawa, que haram à la femme de rester avec son mari qui ne fait pas la prière. Alors moi, je te donne 15 jours, ou alors je te donne un mois. Réfléchis. Si tu commences la salat, on continue notre chemin en essayant à chaque fois de s'arranger mieux. Si tu ne commences pas la salat, tu décides de ne pas commencer, alors c'est terminé entre nous. Et je t'avertis que pendant tout ce mois, je ne voudrais pas que tu m'approches physiquement. Je ne voudrais pas que tu m'approches physiquement, car tu es un porc. Tu es un porc, tu n'es plus un être humain. Donc au moins, alors tu dis tu es un porc, je ne vis pas avec le porc. Jusqu'à ce que le porc devienne un être humain qui se lave et qui fait les ablutions et qui fait la salate. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Je dois m'arrêter. J'avais déjà des invités et je les ai sautés. Donc on va se rencontrer inshallah ta'ala. Aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui c'est samedi. Inshallah mercredi ou bien inshallah ta'ala lundi inshallah ta'ala si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Tfadlal, deux minutes, tfadlal. Tout à l'heure Mousseline, tu m'avais parlé d'une certaine personne pour la mettre sur le PV. Pas sur le PV, sur la liste. Mais je ne sais plus qui c'est cette personne. Tfadlal.
Je vais vous dire, cher Ham, c'est pas moi qui vous a parlé de ça. Le frère Lourabé dit que c'est lui. Juste, cher, c'est par rapport à une ancienne question. Qu'on vous avait posée au moment des problèmes de connexion. Je pense que vous avez déjà répondu, je me rappelle plus bien. C'était sur l'argent de Noël. Une personne qui, dont sa grand-mère lui avait donné de l'argent pour Noël, elle avait refusé, mais sa grand-mère avait insisté pour lui donner. Pour lui donner cet argent. C'était pas le jour de Noël, c'était quelques jours avant ou là des jours après, mais c'est avec l'intention que ce soit pour Noël. Et cette personne nous avait demandé qu'est-ce qu'elle pouvait faire avec cet argent. Tfada Cher, Hayakum Allah et qu'Allah vous récompense. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Je lui avais répondu, je me souviens bien, qu'en principe, on ne prend pas cet argent. Je ne prends pas l'argent qu'on me donne pour des fêtes religieuses. Mais comme celle-là disait que elle le recevait, je ne sais pas par où, par poste ou je ne sais pas quoi, qu'elle avait déjà cet argent, qu'elle ne pouvait pas le rendre. Je lui ai dit, alors qu'elle le donnait aux nécessiteux. Ou alors, si elle, elle est nécessiteuse, qu'elle le prenne, mais qu'elle ne le mange pas. Elle n'achète pas avec des choses qui se mangent, mais qu'elle paye par exemple avec le téléphone ou bien l'essence, ou bien quelque chose comme ça. Voilà, c'était ma réponse, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, à très bientôt. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Et j'oublierai pas aussi de dire à toutes les personnes qui m'ont fait des doigts, je leur dis amin et à vous de même. Et je dis aussi à toutes les personnes qui m'avaient dit qu'elles m'aimaient en Allah subhanahu wa ta'ala, que je leur dis puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous aimer en lui comme vous m'avez aimé. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.